Mais tout d'abord, vous savez très bien que c'est pour chaque personne pareil, c'est pour chaque nation, c'est la même chose. C'est-à-dire que notre comportement collectif ou individuel, il est lié à des choses très profondes qui parfois sont dans l'inconscient.
Je vous propose de prendre chacun votre chaise et qu'on se rapproche. On touche des choses, on touche des schémas, des forteresses de pensée. Peut-être on aura par moment besoin de prendre la guitare. Et on va veiller, on va pas parler trop vite. Et on va veiller à ce que chaque parole passe. Si vous voyez que vous vous endormez ou que vous avez perdu le fil, vous levez la main et on recommence. D'accord ?
C'est important cet emplacement physique parce que tabernacle, le sens profond de tabernacle, c'est Dieu avec. Alors, je disais, c'est important ce signe physique que Manuela vous demande d'accomplir parce que tabernacle, donc si on est en plein dans la fête des tabernacles, c'est Dieu avec. Et là, et en plus, on sait que Dieu, à travers ce qu'on vit, nous, Église locale, il veut toucher aux profondeurs de l'inconscient collectif français. Alors, il y a des Suisses au milieu de nous, peut-être que aussi les Suisses ont été très pollués par la pensée française, donc vous êtes concernés aussi. On a le Dieu du maintenant, un Dieu qui agit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et donc Dieu, à travers ce qu'on vit ce matin, en tant qu'Église locale, on est tous sacrificateurs, il veut toucher... une des profondeurs de la pensée française, profondeur de l'inconscient aussi, notre inconscient culturel collectif, ce qui est venu à travers des générations et des générations. Et il y a cette onction pour détruire, pour renverser, et l'onction pour bâtir. Mais il faut d'abord détruire, il faut dénoncer les fausses conceptions. Manuela parlait de tout ce que notre premier péché, c'était de rejeter Israël. Et bien sûr, après, on a été ouvert pour toutes sortes de pollutions. Pollution spirituelle, pollution culturelle, et on a accueilli des fausses conceptions. Et j'aurais juste mettre le rayon laser sur quelques fausses conceptions, parce que ça a imbibé toute notre culture, et forcément notre culture d'église, notre culture nationale et notre culture d'église, par rapport à la conception même du Père et de Dieu. Et donc, on a parlé de donc le XVIe siècle, je ne vais pas remonter jusqu'au Moyen-Âge, mais au XVIe siècle, il y a eu cette redécouverte de toute l'antiquité gréco-romaine, et notre société occidentale, et en particulier la France, a été profondément marquée par la culture gréco-romaine. Là, je parle à Julie, je parle à Donatien, prof de français, très, très, très marquée par la culture gréco-romaine. Et comment sont présentés les dieux dans la mythologie gréco-romaine ? Ils sont sur l'Olympe. Ils habitent l'Olympe, c'est-à-dire une haute montagne dans les nuées, en Grèce, là. Ils habitent là, et de temps en temps, ils font des incursions assez dévastatrices, d'ailleurs, chez les humains. Mais ils habitent l'Olympe. Et on a gardé la notion en français... Il a un calme olympien. Le calme olympien, ça vient de l'Olympe. Ça veut dire qu'il y a une notion de distance, de détachement. Les dieux, ils sont là-haut. Et d'ailleurs, la notion de ciel dans la pensée gréco-romaine n'est pas du tout la même que dans la pensée hébraïque. Ça, c'est Janet, pour ceux qui étaient là, qui nous l'a rappelé. Vous rappelez, hein. Le ciel, chez les gréco-romains, c'est là-haut, quoi. À tel point, d'ailleurs, qu'il y a un cosmonaute soviétique, quand il est allé dans l'espace, il a dit, tiens, je n'ai pas trouvé Dieu là-haut. C'est cette notion-là, vous voyez, le ciel, c'est là-haut, le Dieu, il est là-haut. Alors que dans la pensée hébraïque, c'est au milieu de nous. C'est pas là-haut. Vous voyez, et cette pensée gréco-romaine du Dieu là-haut, c'est profond en nous. Donc il y a l'Olympe avec ces dieux qui sont là-haut, distants. Alors, et ça, c'était renforcé aussi par la conception même de nos églises. Toutes nos églises, vous savez, qui ont parsemé notre territoire. Vous avez le chœur avec le prêtre qui officiait. En plus, jusqu'à Vatican II, je crois qu'il était complètement tourné au peuple, le dos tourné contre. Il y avait tout le peuple là dans le transept, hein, dans le jardin à Nef. Et puis vous aviez le cœur, avec la présence de Dieu dans le cœur, normalement, hein, le prêtre, tout ça. Mais il y avait cette coupure, ce cloisonnement. Il y avait le prêtre d'un côté, avec ses magnifiques vêtements dorés, etc., rutilants. Et puis le peuple, beaucoup plus misérable, qui était dans la Nef, quoi. Vous aviez cette séparation. Et puis vous aviez aussi tout le système des moines et des religieuses, hein. Donc quand on aime Dieu, on doit être à l'écart. C'est un principe de base, à tel point que même dans les temps de réveil, je pense à François de Sales, il y a eu un temps de réveil des femmes consacrées qui aimaient Dieu de tout leur cœur et qui voulaient apporter la bonté et l'amour de Dieu aux pauvres, aux malades. Et il y a un diktat qui est tombé de la haute hiérarchie ecclésiastique qui a dit non, vous vous cloîtrez. Vous voulez servir Dieu, cloîtrez, à part, coupez, cloisonnez. Donc la pensée dans les gens, c'était quand on aime Dieu, on se met à part, on est coupé des autres. C'est pas Dieu avec, c'est Dieu à l'écart, dans sa sainteté, tout là-haut, quoi. Après, vous avez tout le système politique, avec la monarchie absolue, l'autorité, donc le droit divin, hein, Louis XIV, le droit divin, etc., où il est à part, à Versailles, dans un luxe inouï, le peuple croupit dans la misère, donc, et puis il est à part. Vous avez toute cette notion donc, d'un, l'autorité royale, donc de droit divin, ou que ce soit le haut clergé, tout le monde, on est à part. Et les prêtres sont, le prêtre il est lointain, distant, inaccessible. Séparation entre le peuple et le clergé, enfin vous voyez tout ce qui est cloisonnement, coupure, un dieu lointain, distant. Après vous avez le déisme, 18e siècle, nos philosophes, ils n'étaient pas athées, hein, nos philosophes, mais déistes, c'est-à-dire Dieu a créé le monde. Oui, ok, c'est le grand horloger, hein, je crois que c'est Voltaire qui dit ça, le grand horloger. Voilà, grand horloger, il a créé le monde, mais il ne s'implique plus du tout après dans son monde. Il le laisse, il nous laisse entre nous, là, il ne s'implique plus. C'est un dieu distant, de nouveau, qui se désintéresse après l'humanité. Et ça, ça a imbibé toute notre philosophie humaniste du XVIIIe siècle. Donc on a tout ça dans notre pensée collective, dans notre mémoire collective. Ça a façonné toute notre culture, notre sculpture, nos peintures, nos grands peintres, tout ça. C'est dans nos monuments, c'est partout. C'est partout, c'est dans notre culture. Il faut vraiment être conscient que c'est au plus profond de notre culture, on a ça. Au plus profond de notre inconscient collectif, on a ça. Un dieu lointain, inaccessible. Plus il est saint, plus il est lointain, plus inaccessible, plus il est distant. Maintenant, je vais venir à la parole, parce que ce qui démolit nos fausses conceptions, une fois qu'elles sont mises à la lumière, c'est la parole de Dieu. Hein. Et la parole de Dieu, on commence avec Jardin d'Éden, et on voit un dieu qui vient, qui a soif de relation, qui vient visiter Adam et Ève avec le vent du soir, vous savez. Donc le soir, c'est comme c'est le matin, hein. Enfin le matin, excusez-moi, le soir, c'est le début de la journée. Donc au début de la journée, donc le soir, il vient visiter, il vient rencontrer, il vient avoir une relation avec Adam et Ève. Donc ça, c'est le cœur de Dieu, avoir une relation. Et là, c'était une relation quotidienne, mais c'est que le début, ça, cette relation quotidienne.
Dieu vient au début de la journée, le soir. Hein, on peut redire ensemble. Dieu vient au début de la journée, le soir, visiter Adam et Ève, parce qu'il avait un ardent désir de communion avec eux.
Bon, après, je passe tous les épisodes, on arrive à l'Exode, et vous vous rappelez l'Exode. Alors, c'est incroyable, parce que le Dieu Tout-Puissant qui a créé les galaxies et tout, de lui-même, il le dit dans 2 Samuel 7, verset 6, « Je me suis déplacé avec une tente pour demeure. » On parle du tabernacle. Je me suis déplacé avec une tente pour demeure. Pendant 40 ans, il a choisi volontairement d'être dans cette tente avec, au milieu. Et quand on a vu l'emplacement du tabernacle, c'était vraiment au cœur même des tribus. Hein, au cœur, avec. Bien sûr, il y avait les règles parce qu'il était saint et il fallait déjà des images du sang de Jésus pour que les gens puissent s'approcher de lui. Mais son désir profond, c'est d'être avec à travers l'histoire de la tente.
La méditation, en fait, c'est ça, c'est pas compliqué, c'est essayer de se le représenter. Donc, en le disant, ça rentre, parce qu'il est dit que la porte de notre cœur, c'est la bouche. Donc, ce que l'on dit avec notre bouche, ça rentre dans le cœur. Hein. C'est pour ça que je vous le fais répéter, parce que quand on le dit avec notre bouche, ça rentre dans le cœur. Donc, on peut peut-être simplement relire le verset, hein, tous ensemble. « Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël » hors d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Dieu a voyagé, on peut se le dire ensemble, Dieu a voyagé sous une tente, dans un tabernacle, au milieu de son peuple.
Vous imaginez, il est au milieu de son peuple, dans une tente, et il a voyagé avec eux.
D'ailleurs, c'est cette présence de Dieu qui est à double tranchant, parce qu'après, quand l'arche est allée chez les Philistins, vous vous rappelez, c'était étonnant parce que les idoles, elles tombaient devant lui. Hein. Le dieu Dagon, pouf, il est tombé devant l'arche, ça ne tenait pas. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit actuellement. Plus la présence de Dieu, plus Dieu est avec, plus Dieu est avec, et plus les idoles tombent. Crise financière, système mammon complètement ébranlé, il y a les plaies aussi, mais ça, ça va avec la présence de Dieu. Les Philistins, ils avaient des plaies aussi, hein, les hémorroïdes et tout ça. Par contre, la même présence de Dieu, elle a porté la bénédiction sur la maison d'Obed-Edom. On le voit aussi. C'est vraiment étonnant, cette présence à double effet, quoi. Hein. Et puis, on arrive alors à vraiment la manifestation même de la présence de Dieu, c'est Jésus. Et on le voit dès Jean 1, verset 14. La parole est devenue chair, et en grec, il est dit, elle a dressé sa tente parmi nous. Dieu s'est incarné, le Fils s'est incarné, il a dressé sa tente. C'est le mot skene en grec, hein. dressé sa tente parmi nous. Il a tabernaclé parmi nous. Et la tente, ça nous parle d'un quelque chose de provisoire, de vulnérable, de temporaire. Il a dressé sa tente. Et c'était déjà annoncé dans Matthieu 1, 23, il nous dit, l'ange disait, on va lui donner le nom d'Emmanuel. Et Emmanuel, c'est le premier nom de Jésus, hein, c'est Dieu avec. Dieu avec. Donc il a choisi, à travers Christ, Dieu a choisi de dresser sa tente au milieu de nous. Et c'était déjà annoncé dans Ésaïe 7. Hein. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec. Donc c'est très fort pour Dieu, parce qu'il a insisté sur ce nom d'Emmanuel. Bien sûr, il y a le nom de Jésus, le Sauveur, hein, mais Emmanuel, c'est Dieu avec. Il y a cet autre nom de Jésus qui est très important. Il est au milieu de son peuple. Et alors après, on en vient à l'enfance de Jésus. Alors là, je vais me faire un régal de démolir nos idées, nos clichés, peut-être hérités de nos traditions religieuses. À votre avis, la famille de Jésus était combien au minimum ? La fratrie, ils étaient combien au minimum ? Non, en tout, enfin minimum, combien ? La fratrie. Ah, vous n'êtes pas du tout. Alors, peut-être, mais ça je ne sais pas. Alors, bibliquement, en fait, Jésus a 4 frères, Jacques, Jose, Simon, Jude et des sœurs, minimum 2, on va dire, minimum. Hein. Donc ça fait, minimum, ils sont 7. Et lui, c'est l'aîné. Alors, les frères aînés au milieu de nous, ils savent ce que ça veut dire d'être frère aîné de 7. Et là, à Nazareth, à mon avis, chacun n'avait pas sa chambre particulière. Donc, c'est une vie... Le père, dans sa sagesse, avait prévu pour son fils incarné une vie de famille nombreuse avec toute la promiscuité, la vie collective qui va avec, quoi. Ça, c'était l'éducation que le père voulait pour le fils. Famille nombreuse. Et nous, dans notre iconographie, nos images, nos peintures, on voit quoi ? Fils unique avec mère. Point final. Vous voyez comme c'est tordu ? Et ça, c'est toutes nos images de religieuses. Hein ? On voit le fils, la mère, point. Fini. Mais c'est tordu, c'est pas ça la réalité. C'était une famille nombreuse. Et Jésus, les frères aînés qui devaient... Vous voyez ce que je veux dire ? Formation du caractère, excellent. Le père, il avait bien prévu son coup dans un milieu modeste. Donc vraiment bien prévu. Et en plus, il était immergé dans la vie collective. Et chez les Juifs, c'était très important, cette vie collective. Avec les fêtes, on montait 3 fois par an. Dès qu'il a eu la bar mitzvah, là, vers 12-13 ans, allez, 3 fois par an à Jérusalem, avec peut-être tout le village, enfin tous les gens qui allaient aux fêtes du village. Donc une vie collective très forte, quoi, très communautaire, très collective. C'est ça la dimension de Jésus. Il a vécu toute son enfance, puis on va dire jusqu'à 30 ans, dans la vie très très collective de son village et de sa famille, quoi. Hein. Et puis après, pendant 3 ans, alors là, si c'est pas collectif, ça... 12 disciples, jour et nuit, avec. Et quand il n'était pas avec eux, il était avec les foules ou avec son père. Mais il n'était jamais petit temps pour lui perso, rien que pour lui. Non, jamais finalement. C'était ou le père, ou la foule, ou les disciples, jour et nuit. Et je crois que j'ai déjà dit, mais une fois, j'ai passé 2-3 jours avec des élèves sous la tente, et je peux dire, j'ai compris. J'ai dit, Jésus, quel prix t'as payé ? Mais c'est le avec, Jésus avec. Et puis il les supporte, leur incrédulité, leur réaction charnelle. Est-ce que tu veux qu'on fasse descendre du ciel le feu pour consumer le village, là ? Vous voyez, ils devaient supporter tout ça. Les incompréhensions, après 3 ans de vie commune, Philippe, la question qui tue, vous savez, tu peux nous montrer le Père ? Ça fait 3 ans, ça fait si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, celui qui m'a vu a vu le Père. Enfin, il supportait, Jésus a supporté tout ça, vous voyez ? Les sautes d'humeur de Pierre, enfin bon, j'imagine que ça ne va pas être drôle tout le temps, quoi. Et c'est Jésus avec. Vous voyez, ça nous casse tous nos schémas, là. Il faut vraiment que ça casse au-dedans de nous, nos schémas culturels, religieux, tout ça, le Jésus inaccessible, vous savez, genre, je ne sais pas, Bouddha ou quelque chose comme ça. Non, c'est pleinement avec son peuple, avec ses disciples, avec les foules, tout le temps avec, quoi. Et puis, la phase finale... C'est bon, on passe après toutes sortes de choses, mais il y a Apocalypse 21, hein, c'est la fin finale. Apocalypse 21, verset 3. 21, verset 3. Voici le tabernacle, et on retrouve le mot skenel, la tente en fait, c'est la tente. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Avec. Et c'est répété, il tabernaclera, ou il dressera sa tente, c'est le même mot que dans Jean 1, 14, hein, de dresser sa tente. Il tabernaclera, il dressera sa tente avec eux. Et ils seront... Oui, alors son peuple, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que, en fait, dans la plupart des manuscrits, ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel. Et ça, c'est magnifique. Ils seront ses peuples au pluriel, c'est-à-dire dans la diversité des peuples. qui seront ses peuples. Et on répète encore, Dieu lui-même sera avec eux. Donc si on, je reprends le verset, Apocalypse 21, 3, parce que ça c'est la fin finale de l'histoire de l'humanité. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il tabernaclera avec eux. Ils seront ses peuples et Dieu lui-même sera avec eux. C'est un Dieu avec. Il faut vraiment qu'on s'approprie au plus profond de nous. Tabernacle, c'est Dieu avec, Dieu en nous. C'est Dieu au milieu de nous. C'est un Dieu qui aime à être en nous, au milieu de nous, avec nous. C'est un Dieu de la proximité. C'est un Dieu du avec. Oui, oui, oui. Tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, ses peuples. Et Dieu lui-même sera avec eux.
Je vous propose simplement qu'on commence par fermer les yeux. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui nous as conduits là ce matin. C'est toi qui illumines les yeux de nos cœurs. Et alors qu'on a allumé le chandelier, Huguette, tu peux me redonner les noms de Dieu qui sont dans le chandelier, s'il te plaît. Quand Dieu a demandé à son peuple d'allumer le chandelier à chaque début de Shabbat, c'est-à-dire le soir, à la tombée du jour, en fait, il leur a donné aussi les différents noms de ces différents noms. Et en allumant le chandelier, il leur a dit aussi comment l'allumer. Alors moi, en bonne façon, je dis, ben, je vois pas pourquoi on ferait comme ça. Puis après, le Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit pourquoi il avait donné ça. Et donc, on allume normalement celle du milieu et on dit El Ohim, le puissant des puissants. Ensuite, la main du sacrificateur ou de la mère de maison se déplace à droite et il dit Elyon, le puissant très haut. Et ensuite, sa main se redéplace comme ça et elle va à gauche et elle dit El Roui, le puissant qui voit. Et sa main se déplace encore comme ça et il dit, elle dit, Elkana, le puissant jaloux. Et de nouveau la main fait comme ça avec la petite lumière, elle allume l'autre bougie et elle dit, El Haï, le puissant vivant. Et de nouveau sa main avec la petite lumière se déplace, elle allume l'autre bougie et elle dit, El Olam, le puissant éternel. Et de nouveau sa main se déplace de l'autre côté avec la petite lumière et elle allume la bougie et elle dit El Shaddai, le puissant nourricier. Et tous les yeux des enfants sont là et ils voient la main de la maman qui se déplace comme ça et tous les noms de Dieu sont dits. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? C'est ce Dieu qui l'entoure. Il est à droite et il est à gauche. Et en fait, le Père simplement est en train de dire aux enfants, je suis ce Dieu tout autour de toi, je suis celui qui voit, je suis celui qui guérit, je suis l'Éternel, je suis le tout nourricier, je suis le tout puissant. Et ce chandelier est allumé parce qu'il dit, je suis au milieu de vous. Il est au milieu de son peuple, il est au milieu de son église, il tabernacle dans les tentes. Et vous savez que Jésus dit que cette tente, ce temple, c'est notre corps. Et vraiment, ce matin, on veut individuellement et corporativement dire qu'on le reçoit, qu'on le reçoit, qu'on le reçoit dans nos cœurs. Et Janet, elle nous disait le langage de la Trinité. Elle nous décrivait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous savez que le Père, il est Père et Mère. C'est vraiment ce Dieu qui est, dont la bonté est incommensurable. C'est ce mot que j'avais ce matin en méditant sur tout ce qu'il y avait eu. C'est l'obéissance à Dieu amène une bénédiction incommensurable. Alors j'ai dit à Stella, tu sais ce que ça veut dire? Elle n'avait jamais prononcé ni entendu ce mot, mais elle l'a décomposé. Et elle a dit, ben oui, ça veut dire une bonté sans mesure. Ben, et j'ai dit, Dieu, certainement ce mot, il a été créé pour te décrire toi, tes bontés. Ta bénédiction est incommensurable. Elle est sans mesure. Elle ne peut pas être mesurée. Et je réalisais que si on obéissait, c'est la parole qui nous le dit, quand on obéit à Dieu, 100%, il y a cette bénédiction qui va jusqu'à 1000 générations. Et le Seigneur nous a dit et redit ces derniers mois qu'il n'y en a qu'un seul qui a obéi 100%, c'est Jésus. Il s'est fait sanctification pour nous. Il s'est fait justice pour nous. Et on l'a reçu en héritage. Et donc on est 100% obéissant en Jésus. On est 100% juste en Jésus. Et donc on est au bénéfice de cette bonté incommensurable. Et ce qu'on avait à cœur pour ce matin, c'est qu'on se mette par petits groupes. Et qu'avec tout ce que le Seigneur nous a dit, ce qu'on a pu entendre au travers des paroles des uns et des autres, eh bien on puisse... Parce que si on reste comme ça, il y en a peu qui peuvent le dire de sa bouche, et c'est important le dire de sa bouche. Que beaucoup puissent avoir l'occasion de renoncer au péché de nos pères. Et puis pour les uns, peut-être le Saint-Esprit va faire prononcer quelque chose ou autre chose, qu'on puisse renoncer au péché de nos pères. Qu'on puisse prier cette prière de Jésus, pardonne papa, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et qu'on puisse leur pardonner, qu'on puisse libérer le pardon. Et qu'on puisse dire, papa, mais nous on veut t'obéir et on veut te recevoir comme toi tu le dis et pas dans nos schémas, dans nos programmes comme nous on a voulu. Mais simplement on veut dire oui. Oui, on veut te recevoir, toi. Et qu'après, simplement, on puisse, par famille, comme ça, par petits groupes, prendre la Sainte Cène, sachant que Jésus a été fait justification pour nous. Il a été fait sanctification pour nous. Nous, on a dit, tu dois faire ci pour être sanctifié, tu dois faire ça pour être juste, tu dois. Eh ben non, ça c'est encore un mensonge. Jésus, il s'est fait justification pour nous. Il s'est fait sanctification pour nous. Parce que le Père désirait ardemment tabernacler au milieu de son peuple. Et on veut renoncer à notre héritage inique et prier que la France devienne ce reflet du Père, que le Père puisse à nouveau bâtir son image en nous. Amen.